Église du Lot, balade découverte des églises et chapelles de notre département, avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Bonjour Marie-Madeleine Rey.
Bonjour Martine.
Alors Marie-Madeleine, nous commençons une nouvelle émission qui s'intitule, comme il a été dit précédemment, donc Église du Lot. Nous allons nous balader, Marie-Madeleine, à travers notre diocèse et notre donc département, et nous allons visiter différentes églises et chapelles. Et nous commençons par l'église Saint-Barthélemy de la paroisse de Cahors. Alors, Marie-Madeleine, c'est un historique très riche que cette église a en son histoire.
Oui, parce que ce n'est pas une église toute jeune.
Et voilà.
Voilà. Alors, la première mention de l'existence de l'église remonte à l'an 1237. Je donne cette date suite à la notice qu'a écrite Étienne Beau sur l'église Saint-Barthélemy, et qui situe donc le début de la connaissance de cette église en 1237. Alors, si on suit un petit historique rapide, hein, quand même, pour ne pas lasser, on sait que notre pape, Jacques Duez, Jean XXII, y a été baptisé en 1244, évidemment l'année de sa naissance, très peu de temps après sa naissance. Donc, ce n'est pas lui qui a construit l'église. Mais elle a fait partie ensuite de ce qu'on a appelé le palais épiscopal de Saint-Barthélemy, qui comprenait le palais Jacques Duez, le palais Duez, parce qu'il n'y avait pas que Jacques, il y avait Pierre aussi, son frère, et qu'il a fait construire et qu'il a embelli et agrandi. Donc cette église faisait partie de tout cet ensemble architectural. Et bizarrement, cette église n'est pas dans le bon sens. Elle est nord-sud.
Oui, effectivement, elle n'est pas tournée, comme la majorité des églises, vers l'est.
Voilà. Donc, on se demande un peu pourquoi, mais il y a peut-être une explication qui n'est pas avérée, si vous voulez, mais qui peut être une hypothèse, c'est qu'il n'avait pas la place de la construire dans l'autre sens.
D'accord.
Voilà, tout simplement, mais bon, c'est qu'une hypothèse. Par contre, cette église n'a pas été terminée. Et c'est pour ça que nous avons un chevet qui n'en est pas un, un mur plat et un chœur qui doit être une travée simplement, qui a été transformée en chœur, mais faute de moyens ou faute de place peut-être aussi, eh bien, on a terminé cette église par un mur plat. Voilà. Donc il y a quatre travées dans cette église, et puis un arrière-chœur, si j'ose dire, avec la sacristie.
D'accord. Et donc, Marie-Madeleine, vous parliez de la première mention de l'église Saint-Barthélemy dans sa construction. Est-ce que j'ai entendu ou j'ai lu quelque chose autour de Saint-Étienne des Soubirous?
Ah voilà. Alors, cette église s'appelait en premier Saint-Étienne des Soubirous.
D'accord.
Puisque c'était dans le quartier des Soubirous. Soubirous ou Soubirous, selon ce qu'on veut. Et ce n'est que sous le pape Jean XXII qu'elle a changé de nom et qu'elle est devenue Saint-Barthélemy, pour ne pas la confondre avec la cathédrale Saint-Étienne. Car la cathédrale Saint-Étienne s'appelait Saint-Étienne et Saint-Étienne des Soubirous s'apprêtait à confusion. Donc, sous le règne, si j'ose dire, du pontificat de Jean XXII, eh bien, la dédicace a été changée pour Saint-Barthélemy. Voilà. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que le pape a doté cette église, l'a agrandie, l'a aménagée, l'a enrichie.
Et pour cause, parce qu'il a été baptisé.
Oui, bien sûr, il a été baptisé en 1244, mais devenu pape, il l'a enrichi, puisque c'était sa, son église de naissance. Et puis la Dotecaore, bien sûr, et la cathédrale aussi, de tas de richesses, bien sûr. Alors, si on continue l'historique...
Oui, tout à fait. Oui,
si on continue l'historique, on a quelques épisodes malheureux, évidemment. En 1450, après la guerre de Cent Ans, évidemment, les Anglais sont passés, donc l'église est très, très appauvrie. Par là-dessus, plus d'un siècle plus tard, en 1580, les Huguenots pillent Cahors, la cathédrale et évidemment les églises,
oui,
dont Saint-Barthélemy.
Événement très connu.
Voilà. Et donc, au siècle suivant, 1644, eh bien, l'église est réaménagée, si on peut dire, et par Alain de Solminiac, l'évêque qui construit le grand séminaire et qui fait de Saint-Barthélemy l'église du séminaire. Donc, 1644. Donc, tout au long du XVIIe siècle, elle a été remeublée, enrichie, et puis c'était après le Concile de Trente, donc c'était la contre-réforme ou la réforme catholique, et il fallait montrer les richesses de l'Église. Voilà, donc elle a donc depuis été maintes fois restaurée, bien sûr, surtout au XXe siècle. Et puis, elle est devenue en 2016 église paroissiale.
Effectivement. Effectivement. Alors, Marie-Madeleine, l'entrée actuelle se trouve côté sud.
Côté sud, oui.
Mais quand nous sommes sur le côté de la rue, c'est-à-dire dans la rue Saint-Barthélemy, il y a un autre portail, tout proche d'ailleurs, pas très loin de ce portail d'entrée actuel de Saint-Barthélemy.
Oui, alors c'est le portail Est, qui a été donc ouvert lors du remaniement du XIVe siècle, aux alentours des années 1320. Donc je vous parlais du pape Jean XXII, mais c'est lui qui a fait que l'église a été restaurée. Et en même temps que la cathédrale, la construction du massif ouest. C'est à la même époque tout ça. Donc ce clocher, ce qu'on appelle le clocher-porche, ou le porche-clocher, si vous voulez, date de cette époque-là. Date de cette époque-là, et on y voit d'ailleurs des structures ogivales, des fenêtres, des arcatures, hein, voilà. Et puis des réemplois, on a mis dans les murs une tête de bœuf, par exemple, des animaux un petit peu fabuleux, voilà. Donc il est assez surprenant, ce porche, mais il est très utile, il sert toujours, et justement... C'est très agréable de rentrer par ce porche.
Donc, Marie-Madeleine, nous nous mettons devant ce portail sud pour entrer dans l'église Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'ossature, entre guillemets, de l'église Saint-Barthélemy?
Voilà.
Alors, au niveau des chapelles, oui, et justement de ce qu'elle contient.
Donc, c'est une nef unique. Il n'y a pas de piliers. Et par contre, il y a des chapelles latérales. Donc, quand on rentre par le portail sud, eh bien, on trouve à droite trois chapelles, puisque le porche est tient lieu d'une chapelle, si vous voulez, tient la place d'une chapelle. Donc, il y en a trois à droite et quatre à gauche, quatre sur le côté ouest. Alors, c'est vrai que ce qui surprend, quand on rentre quand même dans le portail, c'est la verrière centrale du chœur, entre guillemets. Voilà. C'est ça qui attire le regard. Cette verrière est très belle et elle... on peut la décrire peut-être?
Tout à fait.
Dès maintenant?
Tout à fait, absolument, Marie-Madeleine.
Bon, voilà. Donc, cette verrière est en trois parties, si on peut dire. Sur trois registres, nous avons, on va commencer par le haut, peut-être, avec le Christ en majesté, dans une mandorle, et bénissant, bien sûr, et portant le monde dans sa main gauche. Il est dans ce qu'on appelle la mandorle, hein, c'est la forme d'amande, mandorla.
Oui, on en avait déjà parlé l'année dernière pour le temps d'une cathédrale.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Hein, donc c'est mandorla en italien veut dire amande. Voilà, donc c'est un espace ovale dans lequel se trouve le Christ. Et en dessous, on y trouve Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux piliers de l'église. À gauche, Saint-Pierre, à droite, Saint-Paul. Et Saint-Pierre tient les clés et Saint-Paul un parchemin. Et en dessous, donc, dans le troisième registre, nous avons les quatre évangélistes. Les quatre évangélistes avec à gauche Saint Matthieu, ensuite Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean.
Oui, dans l'ordre des évangélistes.
Des évangiles. Et on peut être un peu surpris par la figure de Saint Jean. Il est très efféminé. On dirait une femme, une jeune femme. Il est blond.
Oui.
Et on dit, voilà. Mais Saint Jean était jeune, du temps de Jésus. Donc, bon, on peut... Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais c'est Marie-Madeleine. Non, c'est pas Marie-Madeleine. Voilà. Bon, ça fait partie des anecdotes quand on fait les visites.
Donc, ce vitrail, d'ailleurs, quand nous sommes lors d'une messe dominicale à Saint-Barthélemy, dans le chœur, et qu'il y a le soleil qui lèche oui. cette verrière, c'est magnifique,
oui,
en
oui,
tout cas.
Oui, c'est très beau. C'est très beau et ça envoie des reflets irisés sur le sol du chœur.
Alors, voilà. Donc, nous avons, nous sommes rentrés, nous avons la verrière.
On va continuer dans le chœur, peut-être.
Tout à fait, voilà. Voilà. En face, donc, nous sommes en face, nous avons un grand panneau tableau, on va
alors,
dire.
Alors, en dessous de la verrière, donc, ce grand tableau qui représente la crucifixion de Jésus, qui est un tableau 17e, et où on voit évidemment Jésus sur la croix, entouré en bas de la croix, à gauche de la Vierge et de Saint Jean, et à droite de Saint Barthélemy et d'un autre apôtre, mais qui est anonyme.
Y a-t-il une date sur ce tableau ?
Il est 17e, il doit dater d'environ 1640-1650. Mmh. Et donc voilà, c'est une représentation très très classique d'une crucifixion, sauf que il y a Saint-Barthélemy, puisque l'église était dédicacée à Saint-Barthélemy. Mmh. Et ce qui est inhabituel pour une crucifixion, d'avoir Saint-Barthélemy à ses pieds. Hein. Mmh. Alors Saint-Barthélemy tient un poignard dans la main, puisque son martyr a consisté à l'écorcher vif. Et pour les artistes de cette même époque, même un peu avant, je ne peux pas dire qu'ils s'amusaient à représenter l'écorchement de Saint-Barthélemy, mais ils enroulaient la peau sur un rouleau avec une manivelle. Enfin, c'est assez atroce. C'est assez atroce. Mais enfin, voilà. Le fait est que nous avons Saint-Barthélemy au pied de la croix de la crucifixion. Voilà.
Et de chaque côté de cet immense tableau, parce que c'est vrai qu'il est très grand,
voilà.
Il y a deux autres tableaux.
Alors, il y a deux autres tableaux, toujours du 17e. Alors, à gauche, c'est un tableau qui représente l'adoration des mages, avec donc la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus sur ses bras, sur ses genoux, et les trois mages, dont le premier s'incline, le plus âgé, s'incline devant Marie. Alors Marie est soutenue par Joseph, qui est à l'arrière, habillé de jaune. Il a une belle figure, compatissante. Ensuite, donc, nous avons le premier roi mage, qui est vêtu d'un riche manteau, avec quelques parements dorés. Et puis derrière lui, donc, les deux autres rois mages, avec un manteau rouge, turban, etc. Là aussi, représentation classique. Et le troisième, qui est noir. Nous sommes au 17e, hein, l'exotisme fait loi. Voilà. Et il y a un petit personnage de plus
qui tient
le manteau du plus âgé des rois mages. C'est un petit serviteur, hein, voilà. Mais qui est habillé à la mode du 17e siècle, avec des manches à crever. Voilà, hein, c'est...
Peut-être pouvez-vous expliquer ce qu'est une manche à crever.
Voilà, c'est une manche dont, qui est bouffante, un petit peu bouffante, mais avec des plis très profonds. Voilà, ça s'appelle des crevés. Voilà, pardon.
Oui. Merci, merci.
Merci. Alors ensuite, sur la droite, nous avons une scène qui est là aussi un petit peu inhabituelle, parce que cela représente le Christ juste avant son ascension. Il a encore les pieds posés par terre, les pieds nus. Donc il est au centre du tableau, il est auréolé d'un léger halo doré. Il lève la main droite vers le ciel pour dire qu'il va monter vers son Père. Et entouré, il est entouré donc de quelques apôtres. On peut reconnaître saint Pierre, comme on le connaît habituellement dans l'iconographie, hein, un peu plus âgé que les autres. Et puis tous les autres autour. Alors il y en a 6 ou 7, hein, voilà. Et c'est un peu inhabituel dans l'iconographie, on le trouve rarement, ce thème,
c'est vrai que
avant l'ascension.
On ne le voit pas forcément voilà. Dans d'autres églises. Oui.
Et au-dessus donc du Christ se trouve le Saint-Esprit qui va appeler le Christ à monter au ciel. Voilà pour les deux tableaux qui encadrent ce grand tableau de la crucifixion et la verrière du cœur de Saint-Barthélemy.
Très bien, donc nous venons peut-être, ou vous préférez, ou nous continuons sur les tableaux peut-être.
On continue sur le cœur
voilà.
Toujours.
Et sur le cœur,
en dessous
voilà,
de ces deux tableaux et en dessous de ce grand tableau de la crucifixion, nous trouvons des boiseries. Des boiseries qui sont également 17e et qui comportent des panneaux peints sur les évangélistes. Alors ils sont par paires. À gauche, nous avons Saint Marc et Saint Matthieu, à droite. Et ensuite, de l'autre côté, Saint Jean et Saint Luc.
Voilà. Toujours dans, évidemment, toujours dans
oui,
cette
en tournant,
ordre.
Oui, hein, en tournant. Voilà. Mais c'est à gauche, si vous voulez, ça entoure l'autel, mm-hmm. Hein, l'ancien autel.
Absolument.
Le tabernacle, en fait, hein, maintenant. Voilà. Donc ce sont des peintures toujours 17e qui sont belles en couleur, qui ont été restaurées et qui il y a des rouges, des bleus vifs. Bon, les personnages sont assez précis, hein, les visages sont assez précis. C'est assez plaisant, hein, comme peinture.
Oui, c'est gai, enfin oui, c'est oui, dynamique
si
et gai.
Voilà, voilà. Donc ça entoure le tabernacle.
Beaucoup de tons orangés, rouge orangé.
Voilà. Hein. Donc, sur les avancées de ces boiseries, nous avons deux autres petits panneaux, alors au-dessus des portes.
Voilà, au-dessus des portes qui donnent dans la sacristie.
Voilà, deux autres panneaux qui représentent Saint-Pierre et Saint-Paul. À gauche, Saint-Pierre, à droite, Saint-Paul. Voilà, donc toujours de belles factures. Alors, en suivant, donc, pour le cœur, on va s'arrêter là. Mmh. Et nous allons aller faire les chapelles.
Et voilà, Marie-Madeleine, parce qu'il y en a, elles sont au nombre de
sept. Oui.
Bien sûr. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, 4 à droite et 3 à gauche. Et pour cause, à gauche, à cause, je ne veux pas dire, mais à gauche ou grâce à cette porte d'entrée côté est. Donc là, de ce côté-là, donc il y en a 3.
À droite, oui.
À droite, voilà, rentre, hein, c'est ça, oui, tout voilà. À fait. Et donc, nous allons commencer peut-être par la première.
Non, oui, la première à droite.
À droite,
parce
voilà.
Que c'est la plus ancienne.
Oui, très bien.
C'est une des plus anciennes. Et donc, avec, on va y aller et la voir et la regarder. Alors, c'est une des plus anciennes à l'est, puisqu'elle a conservé des peintures du XIVe siècle. Et c'est assez intéressant à étudier, parce que sur les trois murs, il y a des illustrations. Alors, ce n'est pas très bien conservé, il faut peut-être un peu deviner ce qu'il y a, mais on peut s'y arrêter un petit peu. On peut s'y arrêter un
Tout
petit
à
peu.
Fait.
Alors, on va commencer peut-être par le... On est donc dans la chapelle. On va commencer par le mur de gauche, c'est-à-dire le mur nord. Au mur nord, il y a une peinture qui est sur trois registres. Alors, le plus visible, c'est celui du haut, qui est un Christ en majesté, là aussi. Peut-être un jugement dernier, parce que à ses pieds, il y a les élus.
D'accord.
Il y a les élus. En dessous, très effacé, il s'agit d'un couronnement de la Vierge. Mais c'est très, très effacé, on ne voit plus les couleurs. Mais c'est un couronnement de la Vierge, on le voit encore. Et en dessous, alors en dessous, il devait y avoir deux personnages au moins. Peut-être une annonciation, mais je pense que sur le mur est, il y en a une aussi. Alors, on ne sait pas. Hein, voilà.
Mais comme vous disiez là, juste il y a quelques instants, effectivement, c'est très effacé.
Très effacé. Oui. C'est ancien. Et ça n'a pas été conservé comme il aurait fallu. Hein, évidemment. Bon, le manque d'argent, on laisse les infiltrations d'eau, l'âge. Hein,
oui, le fil du temps.
Siècle,
le fil
voilà,
du temps.
Hein.
Frappe,
il y a quand même, elles ont 700 ans, ces peintures, donc
c'est sûr,
c'est pas rien, voilà. Alors sur le mur est, donc il y a eu une ouverture, l'ouverture d'une fenêtre géminée, et de part et d'autre de cette fenêtre, nous avons probablement une annonciation. Une annonciation de part et d'autre de la fenêtre. Et en dessous, également, alors, deux personnages, on parle de Marie-Madeleine, mais je ne sais pas la distinguer, moi je crois que c'est plutôt une annonciation, parce que c'est un personnage féminin qui tient une quenouille. Or, c'est la Vierge qui tient une quenouille lorsque l'ange lui apparaît.
Oui, oui, oui.
Voilà, et de l'autre côté, donc un ange vêtu de rouge et de bleu, de part et d'autre d'une niche où il n'y a rien, vide.
Une niche qui devait
servir peut-être au rite aussi, hein, pour mettre les burettes, ou les calices, mais était-elle fermée ? Possible, par des pans de bois. Des vantaux de bois, ou alors simplement pour mettre une statue.
Et Marie-Madeleine, cette niche, serait-elle d'époque ?
Alors, elle fait partie du mur est, qui est certainement du 14e, qui a été restauré. D'ailleurs, le mur, on voit que ça a été restauré. Hein. Alors,
d'accord.
De l'autre côté, sur le mur sud, il y a une très belle crucifixion enfoncée dans une... ouverture trilobée.
Marie-Madeleine, je vous propose de reprendre et de revenir dans cette belle église de Saint-Barthélemy à Cahors la semaine prochaine, car nous arrivons au bout de notre émission. Et ça passe très vite, et l'église de Saint-Barthélemy est très riche.
Oui.
Donc nous continuerons la semaine prochaine dans cette église de Saint-Barthélemy. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette balade découverte autour de l'église Saint-Barthélemy de Cahors. Merci Marie-Madeleine.
Merci à vous tous.
Et merci à Imanol qui est à la technique. Au revoir, chers auditeurs, à la semaine prochaine.
Au revoir.
C'était Église du Lot, votre balade hebdomadaire des églises et chapelles de notre département, présentée par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.